n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
La journée mondiale de la radio, c'est ce lundi 13 février. Pour l'occasion, on revient sur son histoire et notre invité est chercheur spécialiste des radios associatives.
Reportage au domaine de la Praille à Hauteville, à la découverte d'activités pour ses vacances d'hiver.
Et votre actualité en bref, c'est tout de suite.
Bourque, en bref.
Nouvelle date pour aller au Café Deuil.
Un nouveau rendez-vous pour parler du deuil dans un cadre convivial et à l'écoute. C'est le 25 février à la MCC de Bourg-en-Bresse dès 10h. C'est organisé par l'association Couple et Famille et c'est ouvert à tous.
Nouvelle exposition au Centre d'art contemporain de Lacou.
Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir ce musée à Lacou, un hameau à côté d'Hauteville. On écoute Sophie Pouille, la directrice du Centre d'art contemporain de Lacou.
On ouvre la saison 2023 avec un événement le 25 et le 26. C'est une restitution de l'envers des pentes. C'est 8 artistes qui sont partis créer dans des refuges de haute montagne et qui ramènent le résultat de leur recherche ou de leur production. Donc ça, ce sera au premier étage. Et au rez-de-chaussée, c'est la restitution d'une résidence de Jean-Sébastien Nouveau du groupe Les Marquises et Félicien Bognot qui font une installation sonore et vidéo immersive. Ce sera une ouverture en mode doudoune, vin chaud et tisane. Parce que pour des questions de réduction budgétaire, les lieux communaux, parce que le centre d'art contemporain de Lacou est un lieu communal, sont pas chauffés en hiver, mais par contre ça peut être très sympa, c'est comme une balade en montagne, mais avec en plus des boissons gratuites, donc je vous invite chaleureusement à venir sur le plateau.
Pour venir voir ces expositions, c'est les 25 et 26 février au Centre d'art contemporain de Lacou, à côté d'Hauteville, dans le Bugey, et le vernissage aura lieu le 25 février à 15h.
Envie de participer à un carnaval à Bourg-en-Bresse?
Le Centre social Amédée Mercier et l'école d'Audet organisent leur carnaval. C'est le 17 février à 14h au Centre social. Tous les enfants seront déguisés et un goûter sera offert à la fin du défilé. Un événement ouvert à tous.
2 minutes, une actu.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxence. Je suis en 4e et je suis en stage à Radio B. Aujourd'hui, je parle de l'histoire de la radio dans le monde et en France.
Quand a été inventée la radio ?
La radio a été inventée en 1899 par un Italien. Selon l'UMNI, plateforme d'apprentissage en ligne, Guglielmo Marconi était physicien, inventeur et ancien sénateur du Royaume d'Italie. Il a rassemblé différents composants pour fabriquer sa première radio. Son invention a eu beaucoup de succès, car Guglielmo monta son entreprise pour vendre ses radios dans le monde entier.
Et quelle a été la première diffusion radio ?
La première communication radio était en morse. Le morse est un langage en son et lumière. Écoutez. Cette première transmission radio s'est passée au-dessus de l'océan Atlantique, le 12 décembre 1901. Le son avait alors parcouru 14 km.
Et quelle est la première personne qui a parlé à la radio ?
C'était le jour de Noël en 1906. Ce jour-là, Reginald Fessenden, inventeur canadien, a diffusé des évangiles de la Bible. Elles étaient chantées par une femme. Écoutez cette reproduction.
Et quelle a été la première station radio en France ?
C'était la radio Tour Eiffel. Elle était installée dans le monument parisien. C'était la première radio diffusée en France et aussi la première radiodiffusion de l'État français. Cela s'est produit le 24 décembre 1921, selon le site officiel de la Tour Eiffel. Cette radio a aussi sauvé la Tour Eiffel. La tour a été construite pour une exposition universelle et devait être détruite quelques mois après. Selon un article publié par Sud-Ouest du 31 mai 2021, ce qui a sauvé la tour Eiffel de sa destruction, c'est le concours organisé par Gustave Eiffel, ingénieur, pour financer une antenne pour la transmission de la radio.
Et à quoi servait la radio à l'époque ?
À écouter des rencontres sportives, jeux débats, mais elle était importante pour des grandes annonces, comme l'appel à la résistance du général de Gaulle du 18 juin 1940. Cette annonce a été faite depuis la BBC à Londres, selon l'UMNI. On écoute un extrait de l'appel disponible en intégralité sur le site internet de l'Élysée.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Et comment la radio a évolué ?
Avant, la radio était sous le contrôle de l'État et les animateurs ne pouvaient pas dire tout ce qu'ils voulaient. C'est pour ça que beaucoup de radios étaient pirates. Ça veut dire qu'ils pirataient les ondes, ils émettaient illégalement. Ces radios n'étaient pas autorisées, elles revendiquaient la liberté d'expression. Après ça, François Mitterrand, président de la République, décide de légaliser ces radios.
Et que s'est-il passé le 9 novembre 1981 ?
La fin du monopole sur les radios, c'est la naissance des radios libres. Les radios pirates deviennent désormais légales. Grâce à ça, en 1982, on recense plus de 2000 radios. Les radios ont le droit d'émettre sur la bande FM. Selon le site L'Union, site de connaissance.
Qu'est-ce que la radio de nos jours ?
Maintenant, nous pouvons écouter la radio n'importe où dans le monde, grâce aux ondes, mais aussi grâce aux web radios.
Et combien y a-t-il de radios en France ?
Maintenant, monter une radio est facile et légal. Il existe les radios FM et les web radios. C'est pour cela qu'il y a plus de 1200 radios en France. Et il reste toujours 9 radios publiques.
Et Maxence, tu es allé à la rencontre des habitants de Bourg pour parler radio.
Je vous quitte avec cet extrait de mon micro-trottoir. Est-ce que vous écoutez la radio ?
Oui, Radio Scoop.
Ouais, beaucoup. Je suis pâtissier, donc j'aime bien écouter la radio en général, la musique.
Bien sûr.
Non, parce que je préfère écouter directement les musiques. Il n'y a personne qui parle et je n'ai pas de publicité.
Non, bah, parce que on n'est pas habitué. Quand on est à un moment, on regarde la télévision.
J'ai été journaliste de radio, donc j'en écoute tout le temps.
De temps en temps, non, mais c'est surtout la télé. Je n'écoute pas la radio, la télé.
Oui, parce que ça me fait une compagnie.
Pourquoi vous écoutez la radio en général ?
Des fois pour écouter les informations qu'ils donnent, puis des fois des chansons dessus.
Parce que j'aime bien la musique, j'aime bien les infos, ce qui se passe dans Bourg et tout.
Pour l'information essentiellement ?
Alors ça, bonne question, je ne sais pas. La musique.
Merci Maxence qui était en stage cette semaine avec nous.
L'invité de Radio B.
Dans sa chronique, Maxence a parlé des radios associatives. Radio B est l'une d'elles. Elle a fêté ses 40 ans l'année dernière. Raphaël Dabzol a justement travaillé sur les radios associatives. Il est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg. Alors ce lundi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Raphaël Dabzol, c'est quoi une radio associative ?
Une radio associative, c'est avant tout une radio privée qui est située sous le régime d'association, donc qui rassemble des personnes qui ont un but commun, et qui est surtout une radio qui se finance autrement que par des financements commerciaux.
Et quelles sont ces autres particularités ?
Une radio associative, c'est avant tout une mission de communication de sociale de proximité depuis les années 2000, mais c'est avant tout une radio qui, étant une radio associative et locale, est souvent beaucoup plus tournée vers ses publics et offre des contenus beaucoup plus parlés et beaucoup plus en relation, en dialogue avec ses auditeurs.
Alors, quelle est la place des radios associatives aujourd'hui en France ?
Alors, aujourd'hui en France, les radios associatives sont les opérateurs les plus nombreux, avec plus de 800 radios en France, métropolitaine et aussi dans les dom-tom. Mais ce sont les radios qui sont presque les moins représentés au niveau du nombre de fréquences, avec seulement 20% des fréquences à peu près attribuées. Et ça dépend beaucoup des situations géographiques, avec des fortes concentrations dans les villes, par exemple, et très peu de radios associatives, par exemple, dans les campagnes.
Alors, Raphaël Dabzol, quand sont apparues les premières radios associatives ?
Alors les premières radios satis, elles sont apparues au début des années 1980, en fait avec l'élection de François Mitterrand, dont la création des radios, des radios libres, des radios privées, était l'une des promesses de campagne. Et en fait, les radios associatives ont été les premières radios privées autorisées en France, parce que contrairement aux radios commerciales, celles qui sont apparues en 1984, le modèle de 1980 voulait uniquement des radios gérées par des associations, pour justement éviter des radios à but commercial. Et après l'autorisation de la publicité et l'autorisation des radios commerciales, les radios associatives sont devenues beaucoup moins nombreuses au profit justement des radios privées commerciales.
Est-ce qu'on peut reparler aussi un petit peu du contexte dans lequel sont nées ces radios associatives ?
Oui, alors c'est un contexte assez agité. Il faut dire que dans la fin des années 70-80, c'est une période où il y a un grand mouvement de régionalisation. Donc il y a une grande opposition notamment au modèle de la radio et de la télévision publique. Donc avant, c'était l'âge de l'ORTF, où en fait c'était des médias très centralisés au niveau de Paris, et il y avait très peu de médias locaux audiovisuels. Et beaucoup de gens se sont justement un peu agacés de ça et ont justement voulu une offre locale, et notamment des radios qui étaient faites par les personnes dans les régions. Et souvent, en fait, ça s'est exprimé par la création de nombreuses radios pirates, donc des radios qui étaient créées par des personnes pour soit des buts écologiques, par exemple, ou soit des buts politiques.
Alors, les radios commerciales se financent principalement grâce à la publicité. Quel est le modèle économique des radios associatives ?
Alors, le modèle économique, au début, interdisait complètement la publicité. Donc, c'était un modèle qui était uniquement financé par l'État, donc par un fonds de financement qui était tiré par justement la publicité des autres médias audiovisuels, notamment les médias, la publicité sur le service public, et qui, au fur et à mesure, en fait, a autorisé une partie de financement par la publicité dans les radios satellites, qui est limitée à 20%, mais qui dépend beaucoup de la politique et justement de la vision de certaines radios. Certaines radios vont favoriser un peu de publicité, quand d'autres vont justement la refuser et vont avoir un modèle sans financement publicitaire, uniquement financement soit par l'État, soit aussi par d'autres moyens, notamment par les auditeurs qui peuvent faire des dons, ou par les personnes qui participent à la radio et qui peuvent la financer.
Qu'est-ce que ce modèle implique pour ces radios associatives ?
Les radios associatives ont été financées par un fonds spécifique, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, le FSER, qui est financé donc par la publicité des autres médias audiovisuels et qui justement reverse ces fonds aux radios associatives pour leur fonctionnement, donc leur simple fait qu'elles existent et leur statut. Et au fur et à mesure du temps, ce fonds s'est donné des missions spécifiques avec des objectifs spécifiques, notamment depuis le début des années 2000, qui orientent les radios vers un type d'activité et un type de contenu spécifique, notamment les contenus parlés, et qui répondent en fait à la mission de communication sociale de proximité. Et donc les radios qui rentrent dans ces systèmes et qui créent des contenus de ce type ont un financement supérieur, donc ce qui leur permet en fait de développer leur activité.
Est-ce que ce modèle économique trouve ses limites aujourd'hui ?
Alors l'une des principales limites, c'est que le fonds est fini. Il y a un budget spécifique établi par année. Donc si le nombre de radios augmente, en fait la somme doit être distribuée sur l'ensemble de ces radios. Donc la somme que touchera les radios peut avoir tendance à diminuer. Mais c'est aussi que l'orientation des politiques publiques se tourne notamment vers des financements très spécifiques, des objectifs spécifiques, ce qui fait que certaines radios vont avoir les moyens de s'adapter et justement de produire des contenus, quand d'autres qui vont fonctionner uniquement avec de l'activité de leurs bénévoles ne vont pas avoir les moyens de s'engager dans ces mêmes activités, de produire des contenus qui puissent répondre à ces politiques publiques et qui justement en fait vont se retrouver avec de moins en moins de revenus et se retrouver dans des difficultés qui peuvent devenir très graves, voire leur disparition.
Dans l'avenir, la bande FM ne va pas disparaître, mais elle va cohabiter avec la RNT, la radio numérique terrestre, et ça se passera via le DAB+, une technologie pour la diffusion. Raphaël Dabzol, où en est le déploiement de la radio numérique terrestre ?
Alors, la radio numérique terrestre, le DAB+, ça a été un gros problème de très longue date. Il faut savoir que ça date même d'avant la télévision numérique terrestre, donc la TNT. Mais en fait, beaucoup d'acteurs majeurs du secteur, notamment les principales radios commerciales, se sont un peu opposés à ça pour favoriser en fait la diffusion par Internet, donc l'écoute qui passait notamment par les téléphones, pour des questions publicitaires, des questions de revenus. Et au fur et à mesure du temps, en fait, le DAB+ s'est imposé comme une nouvelle norme, mais c'est encore très difficile. Alors le principal frein, ça a été en fait au niveau des autoradios, parce que il y a un seuil des véhicules qui peuvent être équipés, et au-delà de ce seuil, en fait, les constructeurs sont obligés de mettre donc le DAB+ dans les autoradios. Et en fait, ce seuil a très difficilement été atteint en France, et ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde.
On peut peut-être rappeler en quelques mots quels sont les avantages de ce DAB+, donc via la radio numérique terrestre.
La première avantage, c'est déjà l'offre, le nombre de radios que l'on peut capter en FM. Même dans les grandes villes, il est difficile de mettre plus d'une vingtaine, une trentaine de radios. Certaines bandes FM, par exemple dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, sont saturées avec un nombre qui approche une trentaine de fréquences. Mais avec le DAB+, on peut dépasser largement les 50 radios. La technologie est également beaucoup moins coûteuse. Donc pour une radio, notamment une radio associative, les coûts de diffusion sont abaissés. Et aussi, c'est une question de qualité. Donc la diffusion FM, comme les auditeurs le savent, suffit de passer dans une forêt, suffit de passer dans une vallée, la diffusion n'est pas toujours idéale. Avec le DAB+, c'est comme avec la TNT, la diffusion sera bien meilleure, et justement, ça offre à la fois une question de qualité de réception, mais aussi une quantité de l'offre qui est disponible pour les auditeurs partout sur le territoire.
Quel impact globalement sur les radios associatives avec cette nouvelle technologie ?
Alors les radios associatives, ça dépend beaucoup en fait de leur positionnement. Certaines justement sont très attachées à la FM, notamment par exemple à leur offre de diffusion. C'est que le DAB+, souvent s'étale sur des beaucoup plus de distance, donc dépasse largement les cadres de la FM. Donc une radio associative locale qui avait une zone par exemple sur une ville ou sur une zone d'une vingtaine de kilomètres, se retrouve parfois avec une fréquence qui peut couvrir un département entier. Et souvent, ça leur pose problème quant justement à l'offre qu'ils peuvent proposer, où ce sont des offres très locales et qui se retrouvent presque hors sol, situées dans des parties du département qu'elles ne couvrent pas. Après, c'est surtout un avantage pour elles au niveau du coût, c'est que par rapport à la FM, où les coûts sont parfois assez importants, on parle parfois de dizaines de milliers d'euros par an, la RNT abaisse beaucoup ses coûts, ce qui en fait justement leur permet d'engager de l'argent dans autre chose, notamment justement la qualité des programmes.
Raphaël Dabzol, une dernière question. Quelles vont être les évolutions des radios associatives dans les années à venir ?
Alors, c'est toujours très difficile à dire. La principale question, c'est au niveau de leur financement. Donc si le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est sanctuarisé pour l'instant, l'émission qu'ils proposent aux radios et surtout en fait la hauteur des financements de ce fonds pose des questions, notamment de la part des radios qui se trouvent de plus en plus nombreuses, avec notamment la RNT qui permet la création de nouvelles radios. Et ce qui justement aussi pousse les financements publics à s'engager en fait dans une organisation beaucoup plus stricte de leurs critères, ce qui peut justement pousser certaines radios en fait à s'en éloigner, soit en se tournant vers des financements autres que le financement public, ou alors justement perdre ces financements et se mettre en difficulté financière. Donc la situation est pour l'instant bonne pour la plupart des radios, mais elle peut devenir très rapidement difficile et pour certaines disparaître, comme c'est le cas dans certaines parties du territoire.
Raphaël Dabzol, merci.
Un jour, merci.
Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi. Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous êtes allée à Hauteville découvrir des activités pour les petits et les grands.
Déjà la deuxième semaine des vacances pour notre zone, voici quelques idées pour occuper votre semaine. On commence avec Au cœur des loups, une activité familiale pour découvrir les chiens de traîneau. Je suis allée voir une famille qui venait juste de rentrer de sa balade.
Margaret,
qu'est-ce que vous aimez dans cette activité ?
Moi, c'est les chiens. Moi, j'adore les toutous, je suis une fan de toutous, j'adore. Et puis, j'en ai déjà fait, et c'est vrai que c'est faire les chiens de traîneau, c'est magnifique, les paysages et tout. Et puis, d'entendre des chiens qui sont heureux, et moi, c'est ma joie.
Louise,
Nina.
Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette balade ?
J'en avais déjà fait, mais c'était bien. C'était bien, mais c'est froid.
Jennifer.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter la balade que vous avez faite aujourd'hui ?
Que j'étais avec mes deux filles. Moi, c'était la première fois, mes filles, c'était la deuxième fois, et on est parti faire un tour de 20 minutes sur les pistes.
Ça voilà. S'est passé comment ?
Ah bah très bien, moi j'ai adoré, à refaire quand on veut. Non, vraiment super bien, le paysage était vraiment bien et les chiens étaient impressionnants. On est venu là pour les vacances et ouais, c'est une idée originale et vraiment je le conseille à tout le monde. Tout le monde peut le faire, donc non, une bonne activité.
Alors bonjour, moi je m'appelle Alexis, entreprise Au cœur des loups, activité chien de traîneau du coup sur le site de la Praille à Hauteville.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre meute, comment ça fonctionne ?
Il n'y a pas de souci. Bon bah là on a Jack et Cali, donc du coup deux chiens esquimaux du Groenland, donc c'est mes deux leaders.
Quoi leur qualité pour être leader ?
Alors bah la qualité de toute façon c'est très simple, le leader faut déjà... Un chien qui se retourne pas forcément, parce que bon, ils sont pas tous leaders. Et puis après, en termes de direction, etc. Donc là, Cali, c'est encore une jeune chienne aussi. Jack, un jeune chien. Donc Cali, qui a déjà beaucoup appris maintenant. Jack, qui est encore pas mal aussi en cours de formation. Mais bon, ça promet pour l'avenir, quoi. Donc bon, avoir de bons leaders qui restent bien toujours devant, qui écoutent bien les directions, qui sont attentifs, c'est tout ce qu'on demande, quoi.
Et ça met longtemps à les dresser pour faire de l'attelage ?
Bah Cali, elle est restée dès toute petite, je l'ai mise en tête. Et puis bah là regardez, c'est sa troisième saison et je commence à en être bien content, même s'il y a encore deux, trois petites choses à revoir, mais ça commence à devenir une bonne chaîne de tête, quoi. Après, on a Sky, qui est juste derrière les leaders. Après, nous avons Snow et Shadow, du coup, qui sont au milieu d'attelage. Donc Snow et Shadow qui sont des chiens samoyèdes, donc beaucoup plus lents que le chien du Groenland, rien à voir, mais qui sont de très bons bosseurs, eux c'est plus des chiens qui bossent à vitesse réduite. Et ensuite on a Ixo et Narok, donc ça c'est les chiens ce qu'on appelle les Wild Dogs, c'est ceux qui sont juste devant le traîneau tout de suite, devant le traîneau tout de suite. Donc eux, c'est ceux qui ont le plus de charges à tracter, on va dire. Donc voilà, devant le traîneau, mais vraiment les chiens les plus costauds pour la force. Et du coup, bah, les deux s'associent super bien au niveau de cet emplacement-là, quoi. C'est des chiens qui mangent une fois par jour, donc on leur donne à manger le soir.
Il leur faut combien de pauses par semaine ?
Vu que moi, mon attelage, il est tout là, je fais deux jours de travail pour deux jours de repos.
Et donc cette saison, donc c'est mêlé entre les moments de neige, les moments où il fait chaud. Comment vous arrivez à gérer ? Est-ce que ça va quand même ?
Ce qu'on fait, c'est que vu que la neige cette année, elle a mis du temps à arriver, du coup, on a commencé par l'activité canicard, du coup. En fait, c'est quatre roues de quad avec deux sièges baquets côte à côte. Donc c'est pareil, on part sur la Praille avec un bon quart d'heure, 20 minutes de balade. Une prestation d'une heure avec 15-20 minutes de balade, l'explication des races nordiques, vous avez le relationnel avec l'animal, ça fait un bon petit moment sympa, une activité d'une heure bien complète, et puis voilà.
Si vous êtes intéressé par une balade en chien de traîneau, vous pouvez contacter Au cœur des loups au 06 58 01 12 19. Autre activité qui fonctionne avec ou sans neige, c'est les bains nordiques. C'est aussi sur le domaine de la Praille à Hauteville et juste à côté du départ des chiens de traîneau. On vous explique tout.
Alors bonjour, je suis Florent. Je m'occupe des bains suédois à la Praille et je suis là pour vous faire plaisir.
Donc là, vous lancez le mécanisme pour les chauffer, c'est ça ?
Exactement, je suis en train d'allumer un feu pour pouvoir chauffer l'eau et faire monter la température entre 35 et 40 degrés. Le journal.
Allez. Donc en fait, c'est assez naturel ce système de chauffage.
Exactement, c'est naturel, oui. C'est tout au bois, le bois est originaire d'autres villes aussi. Donc voilà, on fait vraiment un circuit le plus court possible.
Et vous faites ça combien de temps avant l'arrivée des premiers clients ?
Alors moi, je viens l'allumer en fin de matinée et les premiers clients arrivent à autour de 15h généralement. Donc ça fait bien 3 heures avant pour être sûr qu'il soit bien chaud. Et en fait, il monte de 6 degrés par heure. Il y a quand même 2 mètres cubes à chauffer, donc voilà, ça ne chauffe pas en un rien de temps.
Et donc le soir, vous l'éteignez
Je l'éteins, je fais un gros lavage de filtre des bains pour nettoyer les filtres et changer un peu l'eau. Du coup, quand je l'éteins, il est à hauteur de 40. Quand je fais mon changement d'eau et le lavage de filtre, quand je reviens, il est autour de 20-25 le matin. Donc voilà, après je rallume le matin et c'est reparti pour une journée, ainsi de suite. Les gens vont se changer dans les vestiaires qui sont à 20 mètres des bains. Ils peuvent venir avec leur peignoir, je le remets au chaud après, comme ça ça évite qu'ils aient peur d'avoir froid le temps de venir dans les bains. Une fois dans les bains, je leur explique le fonctionnement. Donc il faut sortir de temps en temps. Faire par étapes, c'est plus facile. Donc sortir une première fois, après prendre une boule de neige, se la tamponner sur soi, et après aller s'allonger dans la neige. Plus vous allez rentrer et sortir, plus votre corps va monter en température et plus vous aurez chaud. Et plus ça aura d'effet à la fin. Les effets sont qu'on se retrouve tout détendu, relaxé. Voilà. Et le mieux, c'est que derrière, on passe une super nuit. Du coup, c'est la nuit qui va être vraiment récupératrice. On est en pleine saison, donc le samedi, on est même obligé d'ouvrir dès 11h le matin. Et c'est jusqu'à sortie du bain 21h au plus tard. Et là, pareil, vu qu'on a tellement de demandes, on sort du bain à 22h, 22h30 même, pour essayer de satisfaire le plus de monde possible. C'est surtout les week-ends. La semaine, c'est un peu plus calme. Et les week-ends, plus il y a de neige, plus il y a de monde.
Et donc là, pour les vacances, il reste encore des places ou c'est que ça commence à être complet ?
Alors, pour les samedis, c'est complet. C'est complètement complet. Par contre, le dimanche, il doit rester quelques places. Et la semaine, on a quand même plus de créneaux de libre.
C'est plus des locaux qui viennent ?
Non, pas du tout. Alors, des locaux du plateau. Alors, de l'Ain, oui. On a l'Ain et Lyon, surtout, qui viennent. Après, cette semaine, j'ai eu des gens de Montpellier qui étaient là en vacances. J'en ai beaucoup du Nord et de Bretagne, quand ils viennent voir leurs enfants ou l'inversement, voir leurs parents. Et ils en profitent bien pour venir les faire. Mais des locaux du plateau d'eau de ville, on n'en a pas tant que ça. C'est surtout voilà, de Bourg et de Lyon.
Donc là, pour les vacances, le fait qu'il n'y ait pas trop de neige, ça n'impacte pas cette activité ?
Non, beaucoup moins que d'autres activités. Au contraire, alors non, ça m'attire pas du monde, mais les gens cherchent à faire quelque chose, du coup, ils veulent quand même faire les bains, donc ils viennent quand même ici.
Pour réserver un bain nordique et même le sauna, c'est sur le site de l'Office de tourisme du Haut-Bugey, www.haubugey-tourisme.com.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Le magazine prend un peu de vacances, on se retrouve le lundi 27 février à 18h. Belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si... On faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.